Voilà, merci Jean-Luc, tout dit là. Oui, en fait, c'est le premier livre qui est édité par la Maison de la Bible. Et c'est un roman, comme ça a été dit. Et ça parle d'une histoire d'aventure et d'amour qui se passe dans différents pays, qui démarre ici à Lille, et puis qui se passe en Russie, dans le désert du Burkina Faso et du Mali. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai des retours encourageants de personnes qui l'ont offert à des non-chrétiens en cheminement, on va dire. Des gens intéressés, mais non-chrétiens, et qui ont été touchés par ce livre. Voilà. J'espérais avoir le second, la réédition du second, que j'ai retravaillé complètement, mais il y a quelques délais, quelques problèmes, donc je ne l'ai pas encore. Et puis vous pouvez prier. Pardon, ah oui, c'est ça. Ah oui, ça va mieux. Voilà. Vous m'entendiez quand même? Et vous pouvez prier pour moi parce que je dois, d'ici la fin de l'année, retravailler complètement le troisième pour le reproposer à des éditeurs. Voilà. Alors. Alors, avant de... quand je préparais, disons, ce partage, voilà, j'ai prié pour l'Église, pour vous aussi individuellement, et j'avais juste une image que j'aimerais vous donner avant de commencer à partager le message. J'ai vu la Bible, une grosse Bible, mais qui était posée sur une table et fermée, mais en fait, il y avait plusieurs marque-pages, ou un peu comme des petits papiers de couleur, qui sortait de la Bible comme ça, il y en avait plusieurs. Et l'interprétation que j'avais avec ça, c'était que c'est comme si le Seigneur disait, c'est le temps pour l'Église, mais aussi pour chacun de vous, de relire et de considérer et de peser les anciennes paroles que Dieu vous a données, qui étaient peut-être marquées dans vos Bibles, peut-être soulignées ou peut-être des marque-pages. Mais c'est comme si Dieu dit, c'est le temps de les relire, de les considérer et de les peser, les paroles que vous avez reçues individuellement ou en tant qu'Église. Et j'avais cette parole, vous savez, dans 2 Pierre 1,19 qui dit que vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique qui est comme une lumière qui brille dans un lieu sombre, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève et illumine vos cœurs. Et l'étoile du matin, c'est Jésus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si Dieu dit, vos cœurs sont prêts pour comprendre et pour saisir certaines paroles qui ont été données dans le passé, mais qui pour vous restaient un peu floues ou inachevées ou un peu décalées avec vos réalités de l'époque. Mais c'est comme si le Seigneur dit, vos cœurs sont prêts et aussi les circonstances sont prêtes pour comprendre et pour mettre en œuvre ces paroles. Et donc, n'hésitez pas, si vous vous sentez interpellé, à reprendre ces anciennes paroles que vous avez reçues individuellement ou en tant qu'Église et qui vont peut-être faire sens et être illuminées par la présence et par la conviction du Saint-Esprit, parce qu'il y a eu un cheminement dans vos cœurs. Et il y a un cheminement dans les temps que nous vivons aussi. Amen. Alors, je passe au message. Voilà, alors, je commence par une petite anecdote. J'étais dans ma voiture l'autre jour et j'écoutais les informations. Et puis je suis tombé sur un reportage qui nous dit « Ah, il y a beaucoup de retard dans les TER ». Ouais, je sais pas si ça fait... Mais heureusement, il y a un directeur régional de je ne sais plus quelle région qui intervient et qui nous donne la raison du retard dans les TER, qui va vous consoler et qui va vous édifier. Et il a dit, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de feuilles mortes sur les voies. Voilà, donc en fait c'est ça la vraie raison du retard des TER, c'est parce qu'il y a beaucoup de feuilles mortes sur les voies. Nous sommes dans un automne spécial, n'est-ce pas? Les feuilles tombent et ça retarde nos TER. Et à cette parole, j'avais envie de rire, mais j'avais tout de suite une autre parole qui me revenait dans la Bible et qui dit « Au bruit d'une feuille qui tombe, Tu trembleras et tu fuiras au seul bruit d'une feuille qui tombe. Et ça m'a parlé par rapport à là où nous sommes aujourd'hui, dans ce monde, où tout devient énorme. Et tout devient, semble être une anomalie, même les feuilles qui tombent. Et c'est comme si on est dans un climat de peur qui prévaut aujourd'hui et qu'on entretient même aujourd'hui et qui fait que tout devient gros, énorme, insurmontable. Et je pense que le Seigneur, il veut nous parler par rapport à ça. Et l'autre chose qui m'a interpellé à peu près au même moment, c'est que je vois depuis, ça m'étonne, des hommes politiques ou même des hommes de la société civile, mais notamment des hommes politiques qui étaient des gens très radicaux, très rebelles, très libertaires, et qui sont aujourd'hui comme paralysés par la peur. Et qui tiennent des discours qu'on n'aurait pas imaginés avant et qui disent « Ah mais oui, peu importe, j'ai entendu un homme politique a dit « Mais oh, on nous rabat les oreilles avec la liberté, pourtant c'était un chantre de la liberté, mais ce qui importe c'est qu'on puisse revivre comme avant. » Bon, voilà, juste quelques réflexions. Et vous savez, il y a cette parole, c'est d'ailleurs notre fille Eliana qui est là parmi nous aujourd'hui et qui m'avait donné cette parole de Orwell, qui semble avoir pris cette parole à Benjamin Franklin, l'ancien président, vieux président des États-Unis, et qui dit quand l'homme est prêt à sacrifier sa liberté pour la sécurité, il finira par perdre et l'un et l'autre. Donc voilà, la peur, souvent, on le voit avec ces hommes politiques dont j'ai parlé, elle triomphe des idéologies, mais pourquoi ? Parce que peut-être les idéologies n'avaient pas un fondement solide. Et quand tout se dérobe sous nos pas, souvent la peur entre pour voler nos certitudes. Alors là, j'ai fait un petit tableau, et je pense que peut-être c'est une réalité que nous vivons dans le monde, mais peut-être que ça évoque quelque chose pour chacun de nous. Est-ce que la peur triomphe de notre foi ? Est-ce que la peur triomphe de notre foi ? Je pense que chacun a ses peurs. Et je pense pas que l'un parmi nous puisse dire « Oh, moi, j'ai peur de rien ». Ça serait même inquiétant, peut-être. Mais certains, ils ont peur, peut-être, de pas avoir d'argent. Hein. Et peut-être certains, ils ont peur de la maladie, en particulier. D'autres, ils ont peur des voleurs. D'autres, ils ont peur de l'abandon. D'autres, ils ont peur des responsabilités, de ne pas être à la hauteur. Des fois, il y a des peurs qui sont héritées de l'enfance, qui reviennent de loin. Des fois, il y a des peurs qui viennent parce qu'on a vécu quelque chose traumatisant, et quand une situation équivalente revient, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine de ce qu'on a vécu dans l'enfance, quand ça revient, ça a une puissance décuplée, et la peur peut saisir nos cœurs. Souvent, je prends cette image. Vous savez, on dit que les gens qui sont allergiques aux piqûres de guêpes ou d'abeilles, la première piqûre leur fait rien. Mais c'est la seconde piqûre qui déclenche une allergie, un œdème de Quink, et qui peut être mortel même, très dangereux. Mais la première piqûre ne fait rien. Et parfois dans nos vies, il y a des situations qu'on vit et on arrive à les traverser, plus ou moins bien, mais on arrive à les surmonter. Mais si ces situations ressurgissent, des fois c'est là que nous sommes vulnérables, parce qu'on a déjà vécu ça. Et on est sous l'emprise de la peur. Donc il y a des peurs qui sont justifiées et salutaires. Hein. Je veux dire, si tu vois une voiture qui arrive et qui fonce sur toi, je pense que c'est logique et c'est bon d'avoir peur et de te pousser de la route pour pas ceux qui n'ont pas fait ne sont plus là pour témoigner. Donc il faut obéir à certaines peurs, hein, où c'est l'adrénaline qui nous fait fuir face au danger. Mais j'aimerais insister sur les peurs qui sont amplifiées, qui sont démesurées, qui sont irrationnelles. Il y a des peurs qui nous paralysent et qui nous empêchent d'agir. Des fois sur le champ, sur le coup, dans une situation particulière, mais parfois une peur peut nous paralyser toute notre vie aussi et nous empêche d'entrer dans les choses que Dieu avait préparées. Il y a des peurs qui nous éloignent de Dieu même. Je pense, il y a des personnages bibliques qui ne sont pas les moindres, hein, qui ont, sous la peur, ont pris une voie qui aurait pu, qui les a amenés dans des impasses et qui aurait pu avoir des conséquences terribles. Hein. Je pense à Abraham, qui par peur du pharaon et des Égyptiens, dit que Sarah est sa sœur, qui était en fait sa cousine. Et ensuite, on sait ce qu'il advient. Hein. La pharaon la prend pour femme. Et Dieu intervient, heureusement, et il donne ce rêve à Pharaon. Et finalement, les choses se résolvent. Mais quel dégât cela a pu faire? Et combien ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être décisif dans le mauvais sens dans la vie d'Abraham? Son fils Isaac va refaire un peu la même chose. Et il va dire la même chose de Rebecca, sa femme. Et cette fois encore, Dieu va intervenir pour empêcher que ces choses l'amènent très loin. Mais il y a certaines peurs qui peuvent nous éloigner de Dieu. Pensez aux disciples dans la barque. Vous savez, quand Jésus dort, et puis il y a la tempête qui se lève. Et eux, ils sont quand même des marins expérimentés, qui ont été testés par les années de pêche, etc. Et ils essaient de faire face à la tempête. Hein. Ils essaient de faire face à la tempête avec toute leur force, leur expertise. Mais à un moment donné, ils n'y arrivent plus. Et alors, ils réveillent Jésus, qui était là et qui semblait dormir. Dormait sûrement, mais qui était là tout paisible, et il lui dit, mais ça ne te fait rien que nous périssions. Et Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi ils n'auraient pas dû avoir peur? Je ne sais pas, dans la tempête, sur un bateau, moi, il me semble que j'aurais assez peur aussi. Mais ils avaient oublié qu'il y avait une présence parmi eux, qui était celle de Jésus, qui était capable de parler au vent et de faire taire le vent, de parler à la mer et de calmer la mer. Ils avaient oublié qu'il y avait la présence de Jésus parmi eux. Et c'est là et c'est dans une expérience comme ça qu'ils vont comprendre que Jésus est Dieu. Hein, quel est celui qui parle à la mer et elle lui obéit, au vent et il lui obéit. Ils vont comprendre que ce n'est pas un simple homme qui est avec eux. Donc parfois, nous expérimentons des peurs quand nous perdons le contrôle. Là où nous pensions avoir l'expertise, avoir le contrôle des choses. Et dans les temps où nous sommes, je pense qu'il y a plusieurs situations qui se présentent, que ce soit des situations sanitaires, que ce soit des situations professionnelles, où peut-être les choses ne vont plus comme elles allaient avant. Et notre constat, c'est qu'on perd le contrôle sur certaines choses, et ça peut faire rentrer la peur. Mais les disciples avaient oublié que Jésus était parmi eux dans le bateau. Et ils ont fait toutes les autres choses avant de réveiller Jésus. Mais quand ils l'ont réveillé, la paix est revenue. Dans 1 Jean, il nous est dit que l'amour parfait bannit la crainte. C'est dit dans un contexte par rapport au jugement, mais pas seulement. L'amour parfait bannit la crainte. Et ça nous parle d'abord de l'amour de Dieu pour nous. Et quand cet amour est vécu, vivant, il bannit la crainte. Il triomphe de la crainte. Voilà, peut-être ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais la crainte et jamais peur, mais il est capable de triompher de nos peurs. Un autre passage, on va lire le psaume 46. Psaume 46. À partir du verset 2, parce que le verset 1, c'est juste une introduction. Verset 2 à verset 6. Psaume 46, verset 2 à verset 6. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers. Quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Vous voyez, la clé dans ce passage, c'est que dans cette cité sainte, Dieu réside au milieu d'elle. Alors, elle n'est pas ébranlée. Là où Dieu réside, la peur est surmontée, la peur est bannie. Et la clé pour ça, je pense que c'est Dieu nous dit « Cultivez ma présence pour triompher de vos peurs. » Je pense à l'histoire, même Jésus a dû être secouru dans un moment d'angoisse. Vous savez, à Gethsémané, il est dit qu'il avait, son cœur était triste jusqu'à la mort et il était rempli d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il voyait ce qu'il attendait, la mort terrible à la croix, mais aussi le fait de porter le péché et d'être coupé de la présence de son Père. Et dans cette lutte, Dieu envoie un ange qui le fortifie. Donc même lui a eu besoin d'être fortifié par la présence de Dieu dans les moments difficiles. Ce qui est sûr, c'est que coupé de Dieu, coupé de la présence de Dieu, l'homme devient esclave de la peur. Coupé de la présence de Dieu, l'homme devient esclave de la peur. Alors peut-être on se dit, oh mais non, quand tout va bien, on sent pas ça. L'homme du monde ne sent pas ça, mais quand les temps deviennent difficiles, quand les choses sont ébranlées, c'est là que le test vient. Est-ce que je vais tenir alors que j'ai refusé la présence du Seigneur, ou est-ce que je vais tenir sans revenir et cultiver la présence du Seigneur? C'est quand nos écrans, nos protections tombent dans les temps difficiles. Voilà, comme pensez à l'histoire aussi des disciples. Vous savez, avant l'arrestation de Jésus, sauf ils avaient peur dans cette certaine situation quand ils voient Jésus marcher sur l'eau, mais ils marchaient avec Jésus, ils faisaient les miracles avec Jésus, et ils n'avaient pas, on ne voit pas une peur prégnante des hommes, des réactions des hommes. Mais quand Jésus est arrêté, et même Pierre, il a le courage de prendre son épée. Alors bon, on va dire, oh mais c'est mal Pierre, pourquoi tu as pris l'épée? Mais est-ce que vous... Essayez d'imaginer un petit peu. Hein. Pierre prend une épée, il coupe l'oreille du souverain sacrificateur. Carrément. Hein. Du serviteur du souverain sacrificateur. Et à votre avis, c'était quoi le risque pour Pierre? Alors qu'il y a une troupe qui vient armée, à mon avis, il risquait la vie. Donc finalement, Pierre, comme il l'a dit à Jésus, il n'avait pas. Dans ce temps-là, il avait du courage pour risquer sa vie pour Jésus. Mais à partir du moment où Jésus se laisse arrêter, Pierre, il est dépourvu dans sa propre expertise, dans ce qu'il était capable de faire humainement, c'est-à-dire défendre avec les forces humaines Jésus. Et quand Jésus lui dit « Range ton épée, celui qui vivra par l'épée mourra par l'épée », il est complètement vidé de sa propre force, de ses propres fondements, et ensuite Jésus est arrêté, il n'y a plus cette présence, et il en arrive à trembler de peur. Vous savez, quand on l'accuse à trois reprises d'être un Galiléen qui connaît Jésus, oui, on t'a vu avec Jésus, il arrive à un tel niveau de peur qu'il renie Jésus, lui qui avait dit « Mais moi, je ne te renierai jamais ». Parce qu'il est coupé de la présence, la peur, il devient esclave de la peur. Et parce que les choses ne se passent pas comme lui l'avait prévu. Juste une image aussi, quand je préparais ce message, qui je pense est pour chacun de nous, Et je voyais un temps d'orage avec des éclairs et le tonnerre. Et puis j'ai vu une image très classique, un clocher d'église. Et en haut, il y avait un paratonnerre. Et on sait que le paratonnerre a été inventé justement pour nous protéger de la foudre qui tombe. il y a de nombreuses années de ça. C'est assez étrange. C'est quand je suis arrivé en Centrafrique. J'arrivais, je voyageais et je cherchais du travail. Et on m'avait proposé de travailler pour une entreprise. Et le premier jour que je vais pour aller rencontrer le directeur de l'entreprise, je traverse la route et je vais entrer dans l'entreprise. Il y avait des nuages noirs partout, comme à la fin des saisons sèches. Mais il n'y avait pas de pluie. et c'est un peu les orages de chaleur qu'il y a à la fin de la saison sèche. Et au moment où je vais entrer, passer le seuil de la concession de l'entreprise, donc à l'extérieur, ah, il y a la foudre qui tombe juste au-dessus de moi et elle tombe sur les fils électriques qui sont au-dessus de moi, juste au moment où je passe. Et voilà, c'est juste une image, mais c'était comme s'il y avait cette protection qui était là. Et c'est vrai que j'aurais pu être foudroyé s'il n'y avait pas eu ces fils électriques qui auraient arrêté ça. Et voilà, je pense que, rappelons-nous toujours, c'est une image approximative, mais de ce paratonnerre qui est là, sur nos vies, et sur notre Église, en tant que corps de Christ, et en fait, c'est pas juste un paratonnerre, c'est pas un clocher d'église, c'est pas quelque chose de matériel, c'est Jésus qui est la tête de l'Église, et qui a tout porté sur lui, qui a pris nos fardeaux, la conséquence de nos péchés, et il a tout pris sur lui. Et aujourd'hui encore, il est capable, et il veut prendre nos peurs sur lui. Donc, cultiver la présence de Dieu et son amour dans sa présence, bannit et triomphe de nos craintes. Alors, comment sa présence triomphe de nos peurs? Là, on va changer, on va aller dans Jean 20, avec des exemples très, très concrets de ce qu'ont vécu les disciples et de ce que Jésus a fait. Jean 20. Alors, on va lire à partir du verset 19. Jean 20, à partir du verset 19. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient soigneusement verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur de leurs compatriotes. Le jour, donc le dimanche de la résurrection de Jésus, 2-3 jours après sa mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, enfermés, toutes portes fermées, et Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux, et il leur dit que la paix soit avec vous. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Voilà, une situation très concrète de peur. Et là, on voit comment l'absence de Jésus paralyse les disciples dans la peur. Voilà, ils étaient courageux, ils ont vu, Jésus les a même envoyés, ils ont fait des miracles, ils ont chassé les démons. Et là, sans la présence de Jésus, les voilà paralysés dans la peur. Et aussi parce que celui qu'ils attendaient pour être le roi est mort, ils voient plus d'issue, ils voient plus d'espérance. Tout ce qui faisait leur certitude semble se dérober sous leurs pas. Mais quand Jésus vient, première parole qu'il leur dit, que la paix soit avec vous. Il proclame son shalom. C'était une parole assez classique à prononcer quand on arrivait dans une demeure. Proclamer le shalom de Dieu. Hein. Rien qui manque, rien de cassé. La plénitude de la paix, la plénitude l'amour de Dieu, la plénitude du dessein de Dieu dans ta vie. Donc c'est ce shalom qu'il leur envoie. Mais vous remarquerez qu'il le dit deux fois d'ailleurs. Il leur dit deux fois. Il sait ce dont les disciples ont besoin. Il sait que la peur où ils se trouvent a volé leur paix. Et il sait que sa présence est puissante pour ramener la paix. Et il proclame deux fois cette paix. Peut-être nous avons besoin de cultiver cette parole de paix et ce shalom de Dieu qui bannit la peur. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Dès que cette paix vient et qu'ils voient Jésus, dès que Jésus est avec eux, et ils retrouvent l'espérance, ils retrouvent la vision, la perspective de Dieu sur leur situation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils expérimentent après la paix? Vous l'avez vu dans le texte? Avant ça? Les disciples furent remplis de joie. Ils furent remplis de joie.
Oui, c'est ça.
Vous avez remarqué combien la peur peut voler notre joie. La peur vole souvent notre joie. Et dans le monde où on est, je vois l'enjeu. L'ennemi essaie d'insinuer la peur, d'entretenir la peur, parce qu'il veut voler notre joie aussi. Et on voit l'impact que ça a, même l'impact psychologique sur les enfants, sur les jeunes, mais aussi les plus âgés, et beaucoup de personnes, parce que l'espérance et la joie sont volées. Et puis, autre chose, c'est que, ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et donc, la présence de Jésus redonne un sens aux choses. Il donne une mission. Il donne un mandat. Et puis, comme ça a été dit, il souffle le Saint-Esprit. Hein, donc, peut-être c'est pas la pleine libération du Saint-Esprit, mais qui va être faite à la Pentecôte, mais c'est comme un acompte du Saint-Esprit ou les arts du Saint-Esprit qui sont donnés là. Et ça va leur donner la force pour accomplir le mandat. Donc, dans la présence, il y a un sens au lieu du néant, il y a une mission au lieu du fait de ne pas savoir pourquoi nous sommes là, il y a une force au lieu de la vulnérabilité, et il dit aussi, il leur donne le mandat qui sera de remettre les péchés ou de les retenir en fonction de la réception du message ou de ce que les gens, comment les gens réagiront à l'Esprit de Dieu, au message de l'Évangile. Et donc il y a une autorité qui est donnée, une autorité. La peur nous enlève l'autorité, elle nous met sous la domination. Et là, il redonne une autorité. Donc tout ça, c'est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu redonne la paix, redonne la joie, redonne un sens et une mission. Elle redonne la force qui va avec la mission et elle redonne l'autorité qui n'est pas sous domination, mais qui est capable en Christ de prendre autorité sur les situations. Intéressant. Mais on continue. Verset 24. Alors, verset 24, on apprend que Thomas, il n'était pas là, et donc lui, il ne croit pas que Jésus est ressuscité, etc. Verset 26. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Donc, à nouveau, ils sont dans la maison, les portes fermées. Hein. Donc là, la première visitation de Jésus, elle leur a donné une espérance. Ils ont vu Jésus ressuscité, mais bon, ils sont toujours quand même dans la peur, puisqu'ils s'enferment dans la maison, ils sont toujours sous la crainte des ennemis. Et donc, Jésus vient, et à nouveau, que la paix soit avec vous. À nouveau, il proclame la paix dont ils ont besoin. Et ensuite, il parle à Thomas, voilà, mets ton doigt dans mes plaies, etc. Et Thomas, je ne pense pas que Thomas vient mettre le doigt, mais tout de suite, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et donc, la présence de Dieu lève l'incrédulité. Elle balaye l'incrédulité qui vient aussi avec la peur. Dans la peur, dans les situations difficiles, nous avons tendance à perdre ce qui fait notre force, la foi, et à laisser l'incrédulité venir dominer sur nous. Ah, mais est-ce que dans cette situation, il ne va pas se passer ceci ? Est-ce que le malheur ne va pas arriver ? Est-ce que je vais pouvoir boucler ma fin de mois, est-ce que je ne vais pas perdre mon travail, qu'est-ce que je vais devenir? La peur et l'incrédulité, ce sont deux armes de l'ennemi qui travaillent ensemble. L'incrédulité. Mais remarquez que dans la présence de Dieu, il y a, au lieu de l'incrédulité, il y a une repentance, il y a une révélation. Thomas ouvre les yeux et ce qu'il ne voyait pas avant, il le voit, bien sûr, parce que c'est sous ses yeux, mais il y a une libération de foi. Il y a une libération de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors, je sais que souvent on utilise cette verset pour dire, ah, mais Thomas, il n'est pas très bien, parce que lui, il a vu, c'est pour ça qu'il a cru. Mais, je pense que c'est une image aussi symbolique qui nous montre que par la foi, nous pouvons voir à l'invisible. Mais nous pouvons voir à l'invisible par la foi uniquement dans la présence de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est si nous cultivons la présence à travers la parole, à travers l'intimité, à travers la prière, que notre incrédulité peut être chassée et que la foi peut être restaurée. Et donc cette présence très physique de Jésus, elle est aussi à notre disposition. Dans cette intimité, dans ce rapport, dans cette proximité avec Dieu à laquelle il nous appelle. Il nous appelle à cultiver cette présence. Et puis on va passer à la troisième apparition. Jean 21. Et donc, on va peut-être pas tout lire, mais vous rappelez, hein, si je vais juste vous lire le début, c'est intéressant. Quelques temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. » Donc, ils vont pêcher toute la nuit. On sait qu'ils vont rien ramasser, pas un seul poisson. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous remarquez que les disciples, ils sont plus enfermés dans la maison. Ils ont quitté la maison. Donc, la présence de Jésus a commencé à libérer quelque chose par rapport à la peur et les a envoyés. Non seulement ils sont plus dans la maison, mais ils sont partis en Galilée. Donc, alors qu'avant, je suppose qu'ils étaient cachés dans une maison à Jérusalem ou dans les environs de Jérusalem, juste dans les jours qui ont suivi la mort et le jour de la résurrection de Jésus. Mais là, quelque chose a été accompli par cette présence de Jésus et ils sont capables, ils se rappellent la parole, vous me retrouverez en Galilée, je vous attends en Galilée, et ils vont là-bas. Et ils ont cette liberté de sortir et dire, allez, on va aller pêcher. Et donc là aussi, ils cherchent. Voilà, ils sont dans l'attente, mais ils cherchent un sens à leur vie. Et ils reprennent le cours des choses, le cours de l'habitude, on va aller pêcher. Et ils pensent qu'avec leur expertise, ils vont encore réussir comme ils réussissaient. Et je pense que c'est un miracle de Dieu qu'ils ne pêchent aucun poisson. C'est un contre-miracle, si vous préférez. Mais Dieu permet qu'ils ne pêchent, merci, aucun poisson. Et donc, ils sont à nouveau dans cette vulnérabilité, et dans cette stérilité, leur expertise n'amène pas la fécondité à laquelle ils étaient habitués. Et Dieu va leur, Jésus va apparaître, voilà, au bord de la mer, et il va leur dire, vous avez ramassé quelque chose, non? Et puis il leur dit, ah mais retournez là, et puis vous allez lancer le filet. Et sur cette parole, ils vont lancer le filet et ils vont obtenir 153 gros poissons. Et ils vont réaliser que c'est Jésus. Et donc, Jésus donne la fécondité au lieu de la stérilité. Sans la présence de Jésus, malgré toute leur expertise, stérilité. Et aussi parce qu'ils veulent revenir dans les anciennes voies. Ils veulent reprendre leur vie comme avant. Mais Jésus a changé les choses. Jésus leur a donné une nouvelle mission. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et il va dire à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. Il restaure Pierre qui a renié, et il donne une mission, il donne un sens, il donne un nouveau mandat céleste, humain, terrestre. Au niveau terrestre, ils étaient des pêcheurs de poissons, mais au niveau céleste, Dieu en fait des pêcheurs d'hommes. Et il leur donne une fécondité surabondante avec la pêche miraculeuse, la deuxième qu'ils vivent avec Jésus. Sans Dieu cultivé dans nos vies, je dirais, on peut dire que c'est une parole pour le monde. Sans Dieu, le monde est prisonnier de la peur et les vies sont sans, vides de sens et stériles. Bon, les gens font des choses, mais qu'est-ce qui demeure finalement de façon éternelle? Mais c'est aussi une parole pour nous. Si nous ne cultivons pas la présence de Dieu, nos vies vont s'assécher et vont devenir stériles. Et particulièrement quand les temps deviennent difficiles. Quand les temps deviennent difficiles. Vous savez, une voiture, s'il n'y a plus d'essence dedans, hein, peut-être vous êtes. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de tomber en panne d'essence. Et sur l'élan, la voiture, elle continue un peu là. Hop. Et une fois, ça m'a permis d'arriver juste à la station. J'avais des problèmes de jauge aussi, hein, sur la voiture. Donc, je ne le faisais pas exprès. Hein. C'était pas une démonstration de foi. Je disais pas, oh, Jésus va mettre l'essence dans ma voiture. Non, c'est pas ça. Hein. Je me serais bien passé de ça. Mais, vous voyez, la voiture, elle continue à avancer. Et des fois, c'est comme ça dans nos vies. Mais si tu mets ton pied sur le frein, elle va pas avancer très longtemps. Et je pense que des fois, c'est ça. Les circonstances difficiles, c'est comme un pied sur le frein. Et si on n'a plus d'essence dans le moteur, on n'arrivera pas à avancer. Donc, la présence de Dieu, elle lève les freins et elle donne le carburant nécessaire pour arriver à destination. Vous savez, c'est souvent dans l'extrémité que Dieu parle. Là, ils voient Jésus, ils ne savent pas que c'est Jésus, ils entendent une parole et sur la parole, ils agissent. Mais pour entendre une parole de Jésus, il faut cultiver sa présence. Et c'est comme si Jésus leur rappelle ça. Il apparaît et c'est sa présence. Et ils peuvent entendre une parole qui va amener une obéissance et une fécondité. J'ai été frappé ces derniers jours de réaliser que les plus grandes révélations de la Bible, notamment les révélations sur la fin des temps, hein, je pense à deux des plus grandes révélations sur la fin des temps, vous pensez à qui ? Quel personnage dans la Bible a une révélation particulière ? Jean, Apocalypse, et Daniel. Voilà. Enfin, il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y a d'autres. Mais deux passages vraiment importants, Daniel, et où c'est qu'ils ont eu cette révélation ? Ils étaient là, tranquillement, dans leur synagogue, dire leur église. Tout se passait bien, ils priaient, alléluia, il y avait une bonne louange avec notre ami qui tirait la louange, et puis ils ont une révélation. Non, ils étaient en exil, et ils étaient sous oppression. Jean était à Patmos, il était même pas sur les terres. Ah, pour un ancien juif, il est toujours juif, mais un juif dans l'ancienne nature, c'était, oh là là, mais je suis coupé de Jérusalem, et il peut rien avoir de bon. Et dans la terre de stérilité, il a cette révélation extraordinaire. Et Daniel, c'est pas à Jérusalem qu'il a la révélation, c'est quand il est à Babylone, déporté, opprimé, sous les menaces, même s'il a été élevé en dignité, mais il y a des périodes où il est rejeté, où il est vraiment sous l'oppression et les menaces, et c'est là qu'il a la révélation. Donc, Dieu, par sa présence cultivée dans les temps difficiles, nous redonne la fécondité et donne une révélation qui va au-delà de ce que nous pensions, imaginions ou prions. Et c'est ma prière pour chacun de nous, moi le premier, que dans ces temps difficiles qui sont là, et peut-être qui seront plus difficiles encore devant nous, que ça soit des temps pour cultiver sa présence, cultiver sa parole qui est créatrice, qui est puissante, pour créer la vie, pour libérer la foi, pour accomplir les miracles de Dieu. Cultiver l'intimité avec Dieu. Et il y a tellement de choses qui nous inquiètent et qui volent notre intimité. Tellement de choses dans notre esprit qui disent « Oh, mais fais ceci, fais cela, il faut agir. » Mais Dieu nous attend dans le calme et la confiance dans l'intimité pour recevoir sa paix, pour recevoir la foi au lieu de l'incrédulité et pour recevoir la fécondité au lieu de la stérilité et la révélation au lieu de la sécheresse. Dieu est puissant pour transformer nos replis, nos stérilités en liberté, en révélation et en fécondité si nous l'invitons à venir dans notre présence et nous relever et nous purifier et nous guérir et nous libérer par sa présence de toute peur, de toute crainte, de toute incrédulité. Amen. On va prier. Voilà, Seigneur, tu sais où nous sommes. Tu sais ce que sont nos vies. Tu connais notre apparence extérieure et tu connais notre cœur intérieur. Tu connais les choses qui nous tiennent attachés. Tu connais nos peurs secrètes et cachées qui parfois dominent sur nous. Et Seigneur, ce matin, je crois que tu viens nous rencontrer. Tu viens nous visiter, tu viens nous libérer par ta présence, par ton amour qui bannit la crainte. Merci de bannir la crainte de nos cœurs dans ces temps. que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour des situations spécifiques. Je prie cette victoire de Dieu par ta présence cultivée, par la prière qui sort de notre cœur et qui reçoit par la foi la réponse favorable de Dieu. Non pas comme nous le pensons, non pas avec nos plans, mais comme toi tu le désires, tu le penses et selon tes plans. Merci qu'il y a un lieu de sécurité inébranlable. Je prie que nous puissions l'expérimenter. Et je prie que tu transformes ces temps difficiles dans nos vies et dans ton Église en général en lieu d'opportunité, en lieu de rencontre, en lieu de révélation. Un niveau de révélation que nous n'avons pas connu. Un niveau de révélation qui libère la vie du Seigneur en nous-mêmes et au travers de nous vers les autres. Seigneur, merci pour ce lieu de rencontre, ce lieu de révélation, ce lieu de fécondité. Et recentre-nous sur toi, afin que tout se mette en place, ta mission, ton mandat, la force du Saint-Esprit qui va avec, et la fécondité surabondante de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.